France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
En janvier 1875, un nouvel opéra est inauguré à Paris. C'est le Palais Garnier. La République est très fière, même si le projet a été lancé par le régime précédent, le Second Empire. Paris, capitale culturelle, là où le monde entier rêve de se rendre, se devait de proposer un bâtiment grandiose pour l'opéra. Sans conteste, c'est une réussite. Mais la machine ne peut fonctionner que si elle est actionnée par des hommes, par des femmes, des artistes au personnel administratif, en passant par les machinistes. Opéra Garnier, lumière sur les fantômes du palais.
Monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, si je prends la liberté de vous écrire, c'est à la suite des informations parues dans la presse concernant la double découverte d'un lac souterrain situé sous l'opéra et au bord de ce lac d'un squelette dont le doigt était orné d'un anneau d'or. J'ai en effet la preuve que ce squelette est celui du fantôme de l'opéra.
Ah bien, nous y sommes. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous avons la joie de recevoir des spécialistes de ces fantômes de l'opéra, autrement dit de celles et ceux qui ont travaillé dans l'opéra. Non mais c'est ça, ce sont ces bâtiments qui sont peuplés d'existences. Claire Paolacci, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, musicologue, professeure d'histoire de la musique, de la danse au théâtre du Conservatoire, au rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés. Il faut le dire, tout cela parce que le Conservatoire, on pense souvent à celui de Paris, on parle de l'opéra, on pense souvent à celui de Paris, mais c'est toute la France qui est concerné par ces histoires de musique. C'est partout qu'il y a du spectacle et de l'opéra. Karine Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Ingénieure de recherche au CNRS, historienne de l'art et musicologue également. Et Mathias Auclair, bonjour.
Bonjour.
Conservateur général des bibliothèques, directeur du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France. Ce fantôme de l'opéra, c'est celui qui ouvre cette émission comme un sourire, mais c'est plus pour évoquer tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont travaillé à l'opéra. On est bien d'accord. Allez, on va dire que si l'on parle de l'opéra Garnier avec vous trois, on couvre très longue période. Ce sont des milliers de personnes qui sont concernées hein, dans cette histoire-là. Mathias Auclair, déjà, si on part du chantier, des milliers de personnes, et puis on pourrait étendre ça ensuite.
Alors peut-être qu'il faut déjà rappeler que l'histoire de l'opéra, elle commence sous Louis XIV. Donc en fait, les milliers de personnes commencent dès la monarchie. Alors effectivement, le Palais Garnier est un projet impérial de Napoléon III. Un projet au sommet des ambitions et des priorités politiques de l'empereur au moment où est décidée sa construction, à la suite de l'attentat d'Orsini contre Napoléon III à la salle de Pelletier, qui est la salle précédente, en 1858, mais de manière un peu plus longue, depuis le siècle des Lumières, où un certain nombre de penseurs, d'architectes, de politiques aussi, réfléchissent à la question de l'opéra dans Paris, c'est-à-dire que l'opéra, jusqu'au Palais Garnier, occupe des salles qui sont peu visibles dans Paris, souvent accolées à des palais royaux ou princiers, ou même occupant des salles de jeux de paume reconverties en salles de spectacle. Et finalement, Paris, capitale du monde culturel, n'a pas un opéra à sa mesure. Et donc, ces idées se développent. Et c'est finalement Napoléon III qui les réalise, avec beaucoup de moyens au début, donc évidemment des milliers de personnes sur le chantier, des dizaines de milliers, et puis ensuite Garnier va devoir affronter les aléas de la politique, c'est-à-dire le fait que le chantier devient moins une priorité pour Napoléon III, qui préfère notamment mettre en avant le chantier de l'Hôtel Dieu, et puis ensuite avec la chute du régime impérial, la question de faire de ce bâtiment marqué par l'Empire, avec ses aigles qui couronnent notamment les espaces impériaux, à un bâtiment de la République, et ce retournement de situation s'est réalisé, incroyablement, à la suite de l'incendie de la salle de Pelletier, aussi parce que le régime républicain avait besoin d'un opéra à Paris, et finalement s'est emparé de ce bâtiment impérial pour en faire un bâtiment d'orgueil républicain, un bâtiment d'orgueil national aussi, une nation qui avait été massacrée par les Prussiens, qui avait dû payer 5 milliards de rançons et qui finalement réussissait à montrer au monde, quelques années plus tard, un bâtiment extraordinaire lors d'une inauguration le 5 janvier, qui a des petits côtés impériaux monarchiques, c'est-à-dire on voit le Lord Maire de Londres, le bourgmestre d'Amsterdam, et toute une cérémonie qui peut rappeler les grandes heures de la monarchie ou de l'Empire.
Mathias Auclair, le cocorico, il est pour moi. Avec ce que vous venez de rappeler, et qui est très juste, hein, 1875, c'est l'inauguration de l'Opéra Garnier à Paris. Ce n'est pas le début de l'histoire de l'opéra. L'opéra, à Paris particulièrement, Karine Boulanger, a déjà une très longue histoire depuis Louis XIV.
Oui, en effet. Et en 1875, l'Opéra de Paris est la première maison lyrique d'Europe et du monde. Et on va rester sur cette idée du premier théâtre lyrique jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, même si l'Opéra de Paris à ce moment-là est légèrement en déclin au niveau de la création.
Déjà, bon alors, ça c'est vraiment des discussions qui ne cessent. L'opéra c'est jamais en marge hein, dans les préoccupations de la société à ce moment-là. Avec un autre élément hein, qui a été évoqué, c'est l'importance, mais là, presque pour l'orgueil national, de disposer d'un si grand opéra. Il faut peut-être rappeler, Claire Paolicci, ce que signifie l'opéra au 19e siècle hein. C'est pas une salle réservée à l'élite, c'est un bâtiment que tout le monde observe. On en parle dans la presse, on sait ce qui s'y joue. Peut-être que tout le monde n'y va pas, mais ce qui se passe à l'opéra est connu.
Ce qui se passe à l'opéra est connu et on a un répertoire effectivement qui va perdurer même pendant la période de Jacques Roucher par exemple, entre la Grande Guerre et la Libération, qui perdure aussi jusqu'à nos jours puisque on a encore la Valkyrie, on a encore tout un tas d'ouvrages qui sont donnés comme Faust de Gounod par exemple, et on a également des nouveautés, donc il y a un déclin qui est certain, surtout par exemple au niveau du ballet. Parce qu'on parle de l'opéra, mais il y a également l'art de la danse, avec donc l'opéra qui a été quand même créé avec cette Académie nationale de la danse en 1661, puis l'Académie royale de musique en 1669, qui ont été réunies en 1672. Et effectivement, par la suite, hein, il y a la réunion des deux. Et dans la fin du 19e siècle, effectivement, le ballet est en déclin après avoir connu des grands succès avec le ballet romantique, puis un certain succès notamment avec la Sylphide et Gisèle. Là, on a une période un petit peu difficile puisqu'on a des directeurs qui sont plutôt des chanteurs comme Pedro Gaillard, et donc qui va favoriser l'opéra. Et du coup, effectivement, au début du XXe siècle, on a plutôt l'opéra qui est en avant, avec moins de création, puisqu'effectivement le genre opéra commence à être un petit peu en désuétude. La notion de cinq actes avec une soirée entière d'opéra commence à être un peu compliquée. Et alors après la Première Guerre mondiale, ça l'est d'autant plus que effectivement il y a de nouveaux abonnés, des personnes qui s'intéressent plus aussi au sport, qui s'intéressent plus à ce nouvel art qu'est le cinéma. Et du coup, il faut des opéras un petit peu plus courts, des œuvres un peu plus courtes. Et du coup, il y a un changement total d'esthétique, de mentalité, qui effectivement va transformer aussi les habitudes des abonnés de l'opéra et du Palais Garnier en particulier.
Et oui, l'opéra, c'est aussi le reflet de la société. Karine Boulanger.
Oui, effectivement, il y a un certain déclin, mais ce n'est pas dans le nombre de créations. En réalité, on continue de créer de manière toujours aussi intense, mais l'opéra de Paris n'est plus le moteur de la création. C'est plus lui qui crée des œuvres. Les premières mondiales, ce n'est pas lui qui les fait. Il est un petit peu à la traîne. Les œuvres sont rodées dans d'autres théâtres et quand elles marchent, elles passent à l'Opéra de Paris quand elles sont conformes à ce que l'Opéra de Paris doit gagner. Et effectivement, il y a un changement aussi dans les œuvres que l'on présente avec la mort du grand opéra depuis longtemps et qu'on finit par abandonner à la fin du 19e siècle qui n'est plus du tout au goût du public.
Le grand opéra, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire les grandes machines, souvent historiques en cinq actes, avec ballet. Ce n'est plus du tout ce que le public attend à la fin du 19e siècle. Et du coup, on passe sur des œuvres un peu plus courtes, ce qui permet d'avoir une œuvre lyrique en première partie et un ballet en seconde partie, toujours dans la même soirée.
Avec cette importance du bâtiment lui-même, ce bâtiment-là, longtemps, il a bougé. Hein. C'est un opéra, c'est une idée, c'est un spectacle, c'est un lieu. Mais ce lieu-là n'a pas toujours été le même. Et c'est sous le Second Empire, on l'a bien dit, qu'il est décidé de construire un nouvel opéra à Paris. C'est Charles Garnier, l'architecte, qui emporte le projet. Il va le présenter aux Tuileries.
Peu de temps après le concours d'opéra, Charles Garnier fut appelé aux Tuileries pour montrer ses plans à l'empereur et à l'impératrice. Il était accompagné de M. de Cardaillac, l'excellent directeur des bâtiments civils. Charles n'avait pas les manières du monde, encore moins l'habitude des cours. Il était timide parce qu'il se rendait compte de ce qui lui manquait. Enfin, il parlait si vite en ce temps-là, d'une façon si nerveuse, les idées se précipitant dans sa tête sans qu'il prît le temps de les exprimer, qu'il bredouillait un peu. Il arrivait donc aux Tuileries très ému, très mal à son aise, bourré des recommandations de M. de Cardaillac. L'impératrice, de son côté, était mécontente que l'opéra ne fût pas construit par Viollet-le-Duc, le commensal des Tuileries et de Compiègne, l'ami qui devait trahir l'amitié de l'empereur et celle de l'impératrice en 1871, mais qui était alors l'âme de l'intimité impériale, et l'impératrice était d'avance décidée à critiquer et à blâmer le lauréat du concours. Aussi arriva-t-elle d'un air raide et peu satisfait et d'un ton bref, tandis que l'empereur discrètement disait « C'est bien, c'est beau, c'est très beau ». Elle dit amèrement « Qu'est-ce que c'est que ce style-là ? Ce n'est pas un style, ce n'est ni du grec ni du Louis XVI, pas même du Louis XV. » « Non, dit Charles, ces styles-là ont fait leur temps. C'est du Napoléon III et vous vous plaignez. La scène est trop grande, la salle trop petite, il faut de la place pour les décors et la figuration, la voix humaine a des limites, dit Charles. Si la salle était plus grande, qui pourrait s'y faire entendre et quelle foule la remplirait ? » Le ton de Charles était devenu acerbe. Celui de l'impératrice l'était resté. Le comte de Cardaillac tirait Charles par la manche, lui disant sotto voce « Calmez-vous ». L'empereur souriait silencieusement dans sa moustache. Enfin, s'approchant de Charles, il lui dit tout bas « Ne vous tourmentez pas, elle n'y entend rien du tout. »
Eh ben, c'est pas joli joli ça de la part de Napoléon III. C'est Louise Garnier, l'épouse de Charles Garnier, née Barry, qui ici raconte comment son époux a été présenté les plans à l'empereur, à l'impératrice. Mathias Eucler, l'opéra dessin pour un chef-d'œuvre. C'est l'ouvrage que vous publiez, c'est beau. Hein. Mais alors c'est drôlement, cet opéra, aujourd'hui il y a cet effet waouh, hein, on peut pas aller à l'opéra, même quand on y retourne régulièrement, on se dit mais waouh, c'est impressionnant. Mais quand on voit la production de documents autour de l'opéra, on est saisi hein, déjà par la qualité de ces plans et puis par la masse aussi, c'est pas un bâtiment mystérieux.
Alors c'est vrai que c'est un corpus tout à fait gigantesque, il est tellement gigantesque qu'on n'arrive pas à savoir exactement combien il y a de dessins. On parle de 6000, 7000, 10000 dessins. Des dessins aussi de factures fort diverses, des grands lavis très spectaculaires, sans doute des lavis de présentation au pouvoir, mais aussi des dessins extrêmement techniques. Alors, pour mon livre, j'ai choisi de présenter les dessins les plus spectaculaires, mais en même temps, on se rend compte dans ces dessins très spectaculaires de la conception totale que Garnier a de son bâtiment. On voit notamment que l'architecte ne se limite pas à la stricte architecture, mais va jusqu'à la décoration de manière très très fine, qu'il conçoit vraiment son opéra de la cave au grenier et dans tous les plus petits détails. Et ça vraiment ça frappe, c'est cette maîtrise du bâtiment. Et ensuite, quand on consulte les archives, notamment sa relation avec le conseil des bâtiments civils, sa relation aussi avec les différents artistes avec lesquels il a collaboré. On a souvent dit, on a raison de dire que Garnier a collaboré avec des artistes qui lui étaient très proches, pour certains des amis, ou en tout cas des condisciples de l'École des Beaux-Arts ou de la Villa Médicis. Il avait quand même, au-delà de toutes ses qualités de meneur d'homme, un tempérament assez autoritaire, et il considérait que il y avait un dialogue des arts, mais que l'architecture devait être la première et que les autres arts devaient lui être subordonnés. Et du coup, on est un peu surpris parfois de l'entendre, en tout cas de le lire, et de voir que dans certains cas, il se réjouit presque que l'œuvre peinte soit un peu en deçà, en disant finalement ça magnifie mon architecture. Il le dit par exemple pour la coupole de l'escalier, où il dit que finalement les peintures de Pils sont pas formidables, que le pauvre Pils vieillissant avait un peu de mal avec les nudités grecques parce qu'il était plus habitué aux batailles, mais finalement c'était pas si mal parce que comme ça met en valeur son escalier.
Et ben voilà. C'est une vision particulière de la création, en disant je vais mettre en avant mon œuvre. Mais c'est vrai que c'est une réussite, on peut le dire. Comment est perçu l'opéra par les contemporains, l'opéra Garnier, hein, j'entends bien hein, cette réalisation de Charles Garnier. Est-ce que les contemporains se disent Ah ouais, c'est nouveau. Oui, il y a quelque chose de nouveau dans la présentation d'une salle destinée à donner des spectacles.
Alors, nouveau peut-être pas. On y voit un écran de représentation de ce qui se passe sur scène, un écran de représentation de la société qui vient à l'opéra pour être vue. D'ailleurs, le lustre reste allumé pendant les représentations jusqu'au début du XXe siècle. Et ça fait scandale quand on baisse les lumières pour mieux montrer ce qui se passe sur scène. Pour les gens du théâtre, c'est un bâtiment qui vieillit très vite, qui n'est pas adapté assez rapidement aux nouveautés techniques, qui va très vite handicaper la production de spectacles et le déroulé des spectacles en soirée. Et c'est un bâtiment qui, en fait, est tourné vers le public, qui est conçu pour le public. Et pour les artistes, ça pose de très gros problèmes. Il n'y a pas assez d'espace de répétition. En dehors de la scène, il n'y a pas vraiment d'espace approprié pour répéter les mises en scène. Il n'y a pas d'espace de stockage pour les décors et c'est très vite un gros problème parce que les décors ont été longtemps stockés rue Richer, mais quand les magasins brûlent, on les stocke boulevard Berthier et c'est très loin. Donc, ce qu'ils appellent le chariotage, en fait, les machinistes, ça consiste à amener, reprendre, faire un va-et-vient de décors et ça handicape la programmation. On est sur un théâtre de répertoire où tout change d'une soirée à l'autre, mais certains décors ne peuvent pas être ensemble au théâtre, il n'y a pas assez de place.
Ça
handicape jusqu'à la programmation.
Claire Paolucci.
C'est pour ça que Jacques Roucher, dès 1915, quand il réussit à réouvrir le Palais Garnier, propose de notamment libérer l'espace scénique, des loges de scène qui avaient été proposées en fait, dans la continuité en fait, des types de théâtre qui étaient construits au XIXe siècle. Et il va également rénover la machinerie. Il va faire en sorte d'adapter le plus possible le théâtre pendant 30 ans. Et après, là, peut-être Mathias Auclair pourra nous en parler un peu plus, mais après 1950, il y a aussi beaucoup de travaux. On retire le grand écran. On avait aussi la possibilité d'avoir donc des machineries qui étaient manuelles au début avec, du coup, le cabestan, etc. Il va essayer de moderniser par la mécanique et donc il va installer aussi des ascenseurs pour que ce soit plus facile aussi de transporter les décors. Et effectivement, autre élément qui va être fondamental par rapport à ce qu'évoquait Karine, notamment pour les espaces de travail, les danseurs, la troupe reste, elle existe encore aujourd'hui. Et il n'y a pas assez d'espace. Du coup, vous avez Claude Bessy qui va créer l'école de danse à Nanterre, puisqu'effectivement, pendant longtemps, et donc depuis 1875, l'école de danse, les danseuses travaillaient en fait au quotidien dans les combles. Et donc là, c'était un peu compliqué, c'était dangereux aussi, et c'était vétuste. Donc il y a eu cet agrandissement, mais très loin effectivement, mais qui donc a des avantages puisqu'ils ont de l'espace. C'est un véritable campus, mais en même temps, ils sont plus aussi près des artistes, donc il n'y a plus cette notion de maison, comme ça a été le cas depuis 1875, où les artistes étaient vraiment de la maison, c'était leur paquebot, leur maison. Et donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients à s'agrandir, mais effectivement, c'est un problème d'avoir un espace essentiellement tourné vers le public.
Mathias Auclair, l'opéra est en constante évolution. Parce que c'est pas ce bâtiment de 1875 qui est exactement là aujourd'hui.
Alors déjà, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'effectivement, le Palais Garnier est d'une certaine façon dépassé au moment où il est inauguré. C'est presque la fatalité qui frappe tous les bâtiments qui connaissent une longue période de construction, décidée au moment où le grand opéra dont on a parlé tout à l'heure n'est pas florissant et légèrement décadent, et inauguré un an avant l'inauguration du Palais des Festivals de Bayreuth. Donc, et aussi au moment où Paris va donner l'opéra wagnérien. Et effectivement, l'histoire de l'opéra, l'histoire du Palais Garnier, c'est incessamment se poser la question de l'adaptation et du caractère fondamentalement inadapté du Palais Garnier aux nouveaux modes de production, à de nouvelles envies de la société vis-à-vis de l'opéra, avec des travaux plus ou moins importants et aussi finalement des réflexions fondamentales. Alors la plus connue est sans doute celle du rapport de Jean Villard, où Jean Villard remet en cause finalement l'utilisation du Palais Garnier pour l'opéra. Mais avant lui, il y avait déjà eu quelques écrits très très durs de Debussy contre le Palais Garnier, hein, qu'il comparait à une gare et qui disait que finalement ce bâtiment n'était pas propre à donner l'opéra tel qu'il le concevait, c'est-à-dire l'opéra moderne. Et ce qui est peut-être assez incroyable, c'est que finalement, ce théâtre continue à servir. Et non seulement il sert, mais ça n'est pas un musée ou un théâtre archaïque où on donnerait des reconstitutions de spectacles du 19e siècle, mais bien un théâtre qui produit des spectacles modernes. D'une certaine façon, un théâtre qui peut être plus expérimental que l'Opéra Bastille par certains aspects, parce que la salle est plus petite, parce qu'il a d'autres capacités. Et aujourd'hui, l'Opéra de Paris a ses deux salles, Bastille et Garnier, qui donnent chacun un répertoire légèrement différent et en même temps comparable, puisqu'à la fois du ballet et de l'opéra.
Puis toujours cet écho à la société, hein, Karine Boulanger, vous nous le disiez, l'opéra est fait pour le public, au sens où, si l'on va à l'opéra, c'est pour se faire voir, plus peut-être que pour regarder ce qu'il y a sur scène.
Plus peut-être que pour regarder ce qui se passe sur scène, même écouter le public de l'opéra est réputé très distrait, peu respectueux. On entre dans l'opéra à n'importe quelle heure de la soirée, on ne ferme pas les portes, on va les fermer pour les spectacles wagnériens et notamment Parsifal, ce qui fera un petit scandale dans la haute société. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de comparer la réception de l'opéra par les abonnés, qui sont un petit peu comme dans leur salon, et la réception de l'opéra par les gens qui viennent, ou ce qu'on appelle les populaires, les représentations gratuites. C'est un tout autre public, et les échos dans la presse et les échos des professionnels de l'opéra, notamment un régisseur général à la fin, juste avant la Première Guerre mondiale, soulignent la différence de public, la différence d'attention. Cet autre public, qui vient rarement, est extrêmement attentif. Il n'a pas besoin de claques pour qu'on lui rappelle d'applaudir à tel ou tel endroit, telle ou telle personne. C'est quelque chose de plus frais et de plus spontané.
Oui, parce que c'est cela aussi. Hein. C'est le public, ça reste quand même une machine. Alors, c'est toute la question de l'opéra qui est censée ne pas être en déficit. Parce que y a des représentations, donc beaucoup de gens à payer, on l'a dit, toutes ces personnes des coulisses, de l'administration et puis les personnes qui sont sur scène, c'est rentable l'opéra?
Non. Ça a été rentable juste sous le directorat de Véron, dans les années 1830. Après, c'est tout juste à l'équilibre, mais il y a eu plusieurs faillites.
Eh oui, c'est ça, parce que c'est vraiment toute cette question-là. Qui s'occupe de l'opéra? Est-ce la charge de l'État? Est-ce que l'opéra doit être en équilibre financier? C'est toute la question que se posent les directeurs de l'opéra. Ambroise Thomas, Hamlet. Alors, créé pour l'opéra de la rue Le Pelletier en 1868, c'est-à-dire avant la création de l'opéra Garnier. Parce que c'est cette temporalité-là que j'aimerais bien que l'on évoque. L'opéra Garnier, inauguré en janvier 1875, mais avec un répertoire, mais c'est toute logique, qui date d'avant. C'est ça aussi, cette histoire de l'opéra. Hein. C'est un va-et-vient sans cesse dans le temps, aller regarder ce qui a eu du succès avant et imaginer ce qui peut avoir du succès à ce moment-là. Qui a la charge de toutes ces décisions? C'est le directeur de l'opéra?
Oui.
J'ai deux spécialistes des directeurs de l'opéra. On va le faire dans l'ordre chronologique. Karine Boulanger, vous avez étudié quel directeur de l'opéra ?
Alors, j'ai étudié le dernier directorat avant la Première Guerre mondiale, donc le directorat d'André Messager et de Lémistin Brousson.
En même temps, hein, tous les deux ?
Oui, ils sont directeurs en même temps. Une direction qui se passe très mal, d'ailleurs.
Et Claire Paolacci, vous ?
Moi, j'ai étudié donc l'ère Rouché entre 1915 et 1945, de la Grande Guerre à la Libération.
Voilà, avec ici un directeur qui a marqué son temps, hein, parce que de la Grande Guerre, il est pendant la Grande Guerre un directeur de l'opéra. Quelle est sa fonction ? Que doit-il faire ? Il ne se contente pas de regarder les comptes, il a des choix artistiques aussi, hein.
Oui, c'est avant tout quelqu'un qui est en charge des destinées artistiques de l'opéra, donc des questions de répertoire, de programmation, de création, d'engagement des artistes. On veut les meilleurs artistes, il faut se donner les moyens pour cela, les engager dans les rôles les plus appropriés. C'est lui aussi qui va définir la politique artistique des productions, comment est-ce qu'on dessine les décors, les costumes, qui va recruter des équipes pour permettre la création et la production de spectacles trois fois par semaine, voire quatre fois par semaine.
Et c'est un directeur, prenons Jacques Rouchet, que vous avez étudié, Claire Paolacci, Jacques Rouchet, l'Opéra de Paris et de la Grande Guerre à la Libération, c'est publié auprès de l'Université Sorbonne. Vous avez ici un personnage confronté à tant de défis. Parce que savoir ce qu'aime le public, c'est une chose, mais après, il faut réussir à mettre sur scène ses décisions.
Oui, et en plus, contrairement à Lémistin Brousson et André Messager, dans la première partie de son directorat, donc entre 1915 et 1936, effectivement, Rouchet est seul à la manœuvre. Mais à partir de entre 1936 et 1939, il y a un comité de compositeurs qui vont donc avoir un droit de regard sur la programmation, le choix des œuvres, même si il est décisionnaire et par son antériorité et sa, donc là, son expérience, il va pouvoir réussir à rester, donc, disons, maître à bord. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir, notamment, donc, au cours de l'occupation, l'influence là de l'occupant, avec du coup des œuvres qui vont être imposées par l'occupant. Également de directeurs, puisque à partir de 1936 et surtout en 1939, quand vous avez la création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, il est directeur. En fait, il n'est plus directeur, il est administrateur, et donc il devient haut fonctionnaire. Et du coup, il y a deux directeurs, un pour l'opéra, le Palais Garnier, et un pour l'opéra comique. Et du coup, Jacques Rouchet est, disons, on essaye de le mettre un petit peu en retrait, puisqu'il prend un peu trop d'importance. Et d'ailleurs, en 1936, le gouvernement de Front Populaire avait essayé de l'évincer de la direction de l'opéra, et finalement, on le rappelle, parce qu'il arrive, malheureusement pour la direction peut-être de l'État, à, quels que soient les partis politiques, à rester en poste et à rester en poste avec des députés qu'ils soutiennent quand même pour les subventions, donc qui augmentent les subventions, notamment à partir de la crise de 29, alors que c'était pas forcément gagné de ce côté-là, parce que c'était très compliqué pour l'ensemble des Français. Et il va réussir également donc à financièrement garder à peu près à flot le théâtre, même s'il y a des déficits, mais qui sont, disons, qui restent corrects.
Le à peu près est important de ce que vous venez de dire, Mathias Auclair. L'Opéra Garnier, dessin pour un chef-d'œuvre que vous publiez. On l'a bien dit, c'est sublime, ces archives sont exceptionnelles, mais l'opéra, c'est une énorme machine administrative. Et les archives de l'opéra dans leur masse, ce sont des archives de comptabilité, des correspondances. Là aussi, hein, faut le rappeler, parce que c'est un objet gigantesque, objet historique, à étudier l'opéra. Il n'y a pas que des très 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 beaux dessins, et tant mieux d'ailleurs, pour les historiens et les historiennes.
Moi, je pense qu'il faut, quand on étudie l'Opéra de Paris, se dire qu'on ne va pas étudier simplement un phénomène artistique, mais qu'on va embrasser à la fois la politique, l'économie, la sociologie, les arts décoratifs, la musique, la danse. Enfin, c'est un objet total. Et les archives en sont évidemment le miroir. Alors un miroir imparfait, comme toujours. Il y a des périodes pour lesquelles les archives sont extrêmement riches, souvent des périodes très bureaucratiques, ou des périodes où, par chance, les archives ont été extrêmement bien tenues et bien conservées. D'autres périodes où, malheureusement, les archives sont plus rares, et où on se désespère de ne pas trouver un certain nombre d'éléments qu'on se dit exister. Et donc c'est tout le sel de ce travail sur sur l'Opéra de Paris que d'essayer de croiser les sources, aussi de faire appel à différentes méthodes pour l'historien, c'est-à-dire de temps en temps à être un historien du politique, de temps en temps à être un historien plus économique, de temps en temps à être aussi un historien de l'art ou un historien de la musique. Et comme ça, en croisant les différentes sources, en croisant aussi les méthodes, on réussit à approcher un objet qui est extrêmement stimulant, je trouve, pour finalement mettre en évidence un certain nombre de phénomènes qui montrent les interactions en fait entre l'opéra et la société, l'opéra et le politique, et se rendre compte de finalement la place qu'a occupé l'opéra pendant des années, au moment où la société n'avait pas de télévision, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, et où l'opéra était la fabrique à images, aussi le grand divertissement de la société. Et c'est pour ça que les liens qu'on peut tisser entre le monde de l'opéra et le monde de la peinture, ou l'opéra, les littératures sont extrêmement fertiles, et où il y a encore beaucoup, beaucoup de découvertes à faire.
Oui, Mathias Auclair, au moment où vous avez évoqué le fait que ces archives sont très impressionnantes, mais que parfois, c'est difficile parce qu'il en manque, j'ai vu hein, Claire Paolacci et Karine Boulanger, vous opiniez de la tête, en disant oui, 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 Karine Boulanger, vous, l'étude que vous avez effectuée sur l'opéra Garnier, c'est juste avant la Première Guerre mondiale, et on le saisit bien hein, ici, le défi, ce n'est pas tant de trouver les archives, parce que il y en a des masses, c'est d'essayer de saisir ce que ces archives peuvent nous dire dans leur masse, justement.
Oui, c'est la difficulté de ce type de travail, c'est qu'on a un organisme qui produit énormément d'archives. Alors au début, on est très content, et après, on est désemparé tellement il y a une masse d'archives à traiter. Mais ça nous permet de traiter cette maison un peu sous tous les angles. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on a des archives à caractère administratif, de la gestion, de la comptabilité, de la correspondance active-passive. On a des documents artistiques, le matériel musical, on a les maquettes des décors et des costumes, les photographies des décors plantés sur le théâtre. On a énormément de choses, on a même les mises en scène, en tous les cas pour la période que j'ai étudiée. Donc ça permet d'aborder le théâtre dans toutes ses facettes.
Ouais, et puis avec cette correspondance active-passive, c'est-à-dire qu'on a le brouillon de la lettre envoyée et puis on a le retour. Donc on a la correspondance complète. Claire Paolacci, évidemment, c'est la même chose pour vous pendant la Première Guerre mondiale et durant l'entre-deux-guerres avec Jacques Roucher. Mais c'est bien difficile de faire un travail autour d'un spectacle vivant, parce que le spectacle est vivant, il ne dure qu'un moment, et l'administration de l'opéra, elle, est là, et elle est pesante. Il y a un contraste hein, évident entre ce qui ressemble un peu à des paillettes, et ce qui nous éblouit, c'est le spectacle, et puis la réalité après du fonctionnement.
Et c'est pour ça que, en plus des archives qui sont conservées à l'opéra ou qui sont conservées aux archives nationales, en plus également des archives papier, finalement, qu'on peut trouver dans plusieurs endroits. Et donc là, moi, j'ai la chance avec Jacques Roucher d'avoir un directeur de théâtre qui était aussi directeur d'une société de parfums, les parfums Pivert, qui existent toujours et qui d'ailleurs vont relancer au printemps une série de parfums qui ont été créés à l'époque de Jacques Roucher. Il a, du coup, laissé des archives un peu partout. Et comme il a été directeur aussi du Théâtre des Arts avant, qui lui a permis de faire un petit peu son programme en tant que directeur de l'Opéra pour entrer à l'Opéra de Paris, il a laissé un certain nombre de maquettes, de correspondances aussi, dans d'autres lieux qui ne sont pas à l'Opéra. Et pour la période qui me concerne, et puis pour la période donc du XXe siècle et jusqu'à nos jours, on a la chance aussi d'avoir des archives orales, avec du coup des acteurs qui peuvent témoigner et qui permettent d'intégrer un peu d'humain aussi dans cette machine qui est parfois effectivement assez lourde. Alors j'ai rencontré beaucoup de danseurs et de danseuses, notamment Paulette Dinalix, qui était première danseuse. Donc aujourd'hui, ça serait presque une étoile, puisque à l'époque, il y avait 2-3 étoiles dans la troupe. Aujourd'hui, on a une classe d'étoiles, hein, chez les hommes comme chez les femmes. Et donc, elle m'a ouvert les portes de cet univers de la danse et de ses amis, notamment Yvette Chauviré, Cyril Atanasoff, Claude Bessy et d'autres danseurs et danseuses qui ont pu travailler donc pendant cette période de l'entre-deux-guerres et qui ont travaillé ensuite après, puisqu'ils commencent très jeunes. Hein. Ils sont dans l'école de danse, et puis à la période que j'ai étudiée, ils ont vécu dans le Palais Garnier. Hein. Ils ne sont pas à l'école de Nanterre, donc ils connaissent le Palais Garnier comme leur poche. C'est leur maison. Hein. Ils sont de 8h30 le matin jusqu'à 20h le soir. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, ils passaient des heures entières à répéter même la nuit si Serge Giffard leur demandait, par exemple, parce que ils avaient vraiment une dévotion à cette institution et à ce théâtre qui était vraiment pour eux assez extraordinaire.
Le mot de maison a été évoqué. C'est une réalité, ça, le sentiment d'appartenir à l'opéra, de faire partie de cette maison.
Oui, oui, c'est très très important. À la fois, les acteurs de l'opéra le ressentent. Ils font partie de la maison. Ils se doivent à la maison. Ils se doivent à leur service. Et puis, pour une carrière, alors moi, c'est plutôt du côté lyrique que je vois ça. C'est de toute première importance de pouvoir se réclamer de l'opéra de Paris. Mademoiselle Untel de l'Opéra de Paris, Monsieur Untel de l'Opéra de Paris, c'est plus qu'un nom, c'est plus qu'une énumération de rôles dans une carrière, c'est la consécration.
Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à l'histoire de l'Opéra Garnier, le Palais Garnier, cet opéra à Paris inauguré en 1875, avec ce regard porté particulièrement sur ces hommes, sur ces femmes qui peuplent l'opéra. Et parmi toute cette population à l'intérieur du Palais Garnier, faut pas l'oublier, il y a aussi un fantôme.
Messieurs, avant de vous passer définitivement nos pouvoirs, je dois vous prévenir que vous allez hériter, en plus du corps de ballet, des chorégraphes, des musiciens, du personnel, d'un...
Oui, oui, la chose est assez difficile à dire et je comprends l'hésitation de mon éminent collègue. En effet, nous vous laissons dans notre succession un...
Enfin, que nous laissez-vous, messieurs? Eh bien, il faut que vous le sachiez. Il y a un fantôme à l'opéra.
Oh, c'est drôle. Ainsi, vous nous léguez un fantôme comme vous nous cédez vos fauteuils.
Je vous en prie, monsieur. Nous n'avons jamais été plus sérieux.
Nous en prenons bonne note.
En outre, il nous a demandé de vous faire part d'un ordre formel.
Ah, car ce fantôme donne des ordres au directeur de l'opéra.
Je comprends que cela vous étonne, mais...
Et quels sont les ordres de ce monsieur?
Eh bien, tout d'abord, il s'attend à ce que vous soyez aussi... compréhensif avec lui que nous l'étions nous-mêmes.
Eh bien, s'il a des usages, je ne vois pas pourquoi nous lui battrions au froid.
Vous devrez donc lui accorder tout ce qu'il vous demandera.
D'ailleurs, voici le cahier des charges de l'opéra. Oui. L'article 98 le concerne. Voyez-vous-même, monsieur Richard.
Allez, allez. Si le directeur retarde de plus de 15 jours la mensualité qu'il doit au fantôme de l'opéra, mensualité fixée jusqu'à nouvel ordre à 20 000 francs, soit 240 000 francs par an, le fantôme sera en droit de prendre les mesures de rétorsion qu'il jugera nécessaires.
Le fantôme de l'opéra, une fiction radiophonique en 1966, d'après le roman de Gaston Leroux, bien sûr, avec ici quelque chose qui est particulièrement amusant. Le directeur de l'opéra est confronté à ce fantôme qui raquette, hein, on peut le dire. Ça ressemble beaucoup aux préoccupations des directeurs, hein, qui sont sans cesse confrontés à des obligations imposées par qui? Parce que il y a des administrations de tutelle. Le ministère de la Culture n'existe pas encore. Faut attendre 1959 et André Malraux. Ça dépend de qui, l'opéra?
De l'instruction publique. Et alors, ce qui est très amusant avec ce fantôme de l'opéra, c'est que ça décrit en bonne partie ce qui se passe à l'époque de Messager et Broussan. Les deux directeurs, c'est Messager et Broussan.
On l'entend bien, ils sont
deux. Et le fantôme qui réclame ses 20 000 francs, c'est un commanditaire.
D'accord, donc c'est vraiment inspiré de ce qui se passait à la veille de la Première Guerre mondiale. Étonnant d'avoir deux directeurs, que s'est-il passé?
Alors c'est en fait, quand on cherche un directeur pour l'Opéra de Paris, on juge d'abord un projet artistique, on juge aussi des combinaisons financières. L'État accorde une subvention qui est immuable sous la Troisième République, qui est de 800 000 francs. Or, en 1907, on estime que le fonctionnement de l'opéra, c'est 2 300 000 francs. Donc, le directeur doit apporter 1 500 000. Il doit trouver des combinaisons, réunir des actionnaires pour faire une société en commandite et lui-même acheter des parts. Donc, le côté financier est très important, le côté relationnel. Qui il va trouver pour sa commandite? André Messager, c'est le choix de l'administration. C'est un compositeur illustre, un promoteur de la musique française, des jeunes compositeurs. Mais on pense qu'il n'a pas les relations. On sait qu'il n'a pas la fortune. Et il n'a peut-être pas assez d'expérience de directeur de théâtre. Donc, on prend Lémistin Broussan, qui n'a qu'une carrière en province, mais qui a l'avantage d'être très bien introduit dans les réseaux, des réseaux d'affaires, des réseaux de presse, des réseaux politiques. C'est un ami d'enfance de Gaston Doumergue, qui est le ministre de l'Instruction publique.
Ça aide.
Ça aide. Donc c'est pour ça qu'on nomme deux directeurs. Mais dans l'esprit de l'administration, à ce moment-là, c'est André Messager qu'on nomme.
D'accord.
La difficulté, c'est que les deux hommes ne vont jamais s'entendre.
Et donc, ça ne se passe pas bien, cette direction en soi?
Non, parce qu'il y a deux directeurs qui ont en fait le même rôle. Lémistin Broussan n'acceptera jamais d'être le second d'André Messager, qui lui veut avoir toute la main sur le côté artistique. Mais Broussan ne peut pas faire de l'administration puisqu'il y a un administrateur pour ça. Et en fait, on a plein de querelles des deux directeurs. En plus, les combinaisons un peu douteuses de Limistin Broussan qui lui valent d'être attaqué dans la presse, d'avoir beaucoup de procès. Donc c'est une direction malheureuse.
Qui se termine en 1914 et le relais est pris par vous, Claire Paolucci. Avec ouais. Jacques Rouchet.
Exactement, qui accepte la direction par intérim, puisqu'il avait été nommé en 1913 pour prendre une direction en janvier 1915. Mais Limistin Broussan et André Messager démissionnant, il accepte de prendre l'intérim. Et au moment où l'intérim devait commencer, il y a la Première Guerre mondiale qui est déclarée. Donc on ferme le Palais Garnier et donc il va lutter pendant à peu près un an, pour essayer de rouvrir ce théâtre. Et donc, comme l'a dit Karine, effectivement, tout ce qu'il va réussir à faire, c'est créer cette société de commandite et l'adapter. Et donc, faire en sorte d'avoir des commanditaires qui mettent plus d'argent régulièrement au cours des années 20-30. Et ensuite, cette société de commandite va être complètement supprimée, puisque l'État va reprendre à son compte la gestion du théâtre à partir de 1936. Et entre 1936 et 1939, on met en place cette notion de subvention d'État et d'organisation administrative. Et en 1939, c'est la réunion des théâtres lyriques nationaux. Et donc aujourd'hui, on est encore sous cette organisation administrative qui permet donc à un directeur qui est en fait un haut fonctionnaire diriger cette institution et qui va effectivement donc là pas mettre de deniers personnels dans la direction de l'opéra.
Oui, c'est l'opéra comique qui est attaché à l'opéra Garnier, c'est ça, pour former cet ensemble.
Exactement, à partir de 1936. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, il y a eu une séparation depuis, donc là, peut-être que Mathias Auclair pourra expliciter plus les avancées de la RTLN après 1945. Mais du coup, une chose, juste pour terminer, par rapport à la RTLN pendant la période Rouchet, comme l'État ne met pas autant de financement que ce qu'ils demandent, parfois pour des artistes, pour être sûr d'avoir une bonne programmation, des bons artistes, il met quand même, lui, de l'argent en plus pour payer certains artistes, même entre 1936 et 1945.
Et son argent à lui ?
Personnel, exactement, pour pouvoir payer les artistes et être sûr d'avoir une production de qualité.
La RTLN, c'est la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux. Avec cette évolution, Mathias Auclair, très important de réfléchir aussi à la place de l'opéra, on le dit dans la société, on l'a évoqué à Paris, mais avec ce qui se passe ailleurs en France. Et puis, à Paris même, il y a beaucoup d'autres scènes. On ne peut pas comprendre l'opéra sans réfléchir à ce qui se passe autour. Je l'ai dit, vous êtes directeur du département de la musique de la Bibliothèque Nationale de France. Il n'y a pas que l'opéra Garnier. Il y a beaucoup de choses. Et on le voit bien, cette évolution, la réunion des différents théâtres, c'est aussi pour répondre à l'évolution de différentes scènes sur ce qui est proposé à Paris.
En fait, alors, pour bien comprendre les tenants et aboutissants d'évolution, ce qu'il faut savoir, c'est que la monarchie instaure un système de théâtre privilégié. En fait, à un genre correspond un théâtre. Donc l'opéra, tout chanté, opéra, qu'on appelle aujourd'hui Opéra de Paris, qu'on appelait aussi Académie Royale de Musique jadis. L'opéra mêlé de dialogue, l'opéra comique, autre théâtre qui devient privilégié, puis le théâtre dramatique pour la Comédie française. Voilà. Et c'est cette organisation monarchique qui perdure, avec quelques évolutions sous l'Empire, avec notamment la création du Théâtre Royal Italien, et ensuite, finalement, la décision de liberté des théâtres qui est prise sous Napoléon III, et la multiplication des théâtres hors ces grands théâtres dits privilégiés, qui ne le sont plus, en fait. Alors, mine de rien, cette organisation monarchique a laissé une certaine empreinte dans le Paris d'aujourd'hui, avec toujours des théâtres nationaux, qui sont et qui bénéficient de subventions d'État assez importantes, même si aujourd'hui ils trouvent que leurs subventions baissent trop vite, et puis une structure de théâtre privé. Et effectivement, l'État s'est posé la question, bien après le Second Empire, du statut de ces théâtres nationaux, avec notamment la transformation de l'opéra, d'une structure d'entreprise, on en a beaucoup parlé avec ces questions de commandite, à une structure d'établissement public. Et en fait, en 1939, ce qui est créé, c'est l'Opéra de Paris comme établissement public, c'est-à-dire un théâtre qui, au lieu de trouver l'argent de son fonctionnement par lui-même, c'était le modèle voulu par Louis XIV, hein, depuis Louis XIV, l'opéra ne touche pas de subvention, à partir de 1939, on est dans un système relativement pérenne d'établissement public qui effectivement se poursuit aujourd'hui avec la refondation de l'établissement public en 1995 à la suite du rapport de Gall. Et c'est aujourd'hui dans cette structure que fonctionne l'Opéra de Paris. L'Opéra comique lui-même ayant connu toute une série d'histoires fort différentes puisqu'il se détache de l'Opéra de Paris. Enfin, d'abord, il devient une salle de l'Opéra de Paris en 1978 avec ce qu'on appelait le Théâtre National de l'Opéra de Paris. Puis ensuite devient un théâtre associatif pour finalement devenir lui aussi, au début des années 2000, un établissement public. Donc vous voyez finalement le paysage institutionnel des théâtres nationaux, de ces grands théâtres, il est encore relativement mouvant, même si le 20e et surtout le début du 20e siècle, du 21e siècle lui a donné une certaine forme de stabilité.
Et dites donc, Mathias Auclair, vous venez de nous faire une synthèse de l'histoire de l'institution opéra. Et c'est bien, ça fait du bien. Non, mais rappelez qu'il y avait des privilèges, on n'imagine plus aujourd'hui de se dire que dans telle salle, on n'avait pas le droit de jouer telle pièce. Et que malgré tout, même si cela a été arrêté, il y a encore quelque chose qui demeure. Avec tout ce personnel qui nous intéresse aujourd'hui, parce que on a parlé des directeurs, on a évoqué bien sûr les artistes. Et faut pas oublier hein, les artistes lyriques, il y a le ballet, il y a une floraison possible de création à l'opéra. Et puis, il y a toutes les coulisses, il y a les gens qui travaillent à mettre en place l'ensemble de ces chefs-d'œuvre. L'opéra Garnier lui-même étant un chef-d'œuvre. Moi, je vous propose de regarder un peu ce qui se passe du côté des régisseurs.
Mercredi 14 mai 1913. Observation. Vu Monsieur Broussan, tout va bien. Il m'affirme qu'il a pour moi beaucoup d'affection, etc., etc. Je lui dis que j'ai vu les chefs machinistes, que nous ne pouvons pas avoir la scène dans le jour. Monsieur Broussan est de mon avis. On pourra faire cela demain, dans le jour, et même samedi soir, après le premier acte de Tristan et Isolde. Il approuve mon idée de supprimer le plus possible de figuration et de faire au cœur certaines choses que faisait la figuration. Téléphoner à Kuznetsov pour lui faire part du petit changement. C'est la salle qui me répond. Elle est enrouée et elle est au lit. Elle ne pourra pas chanter Manon demain à l'opéra comique. Monsieur Messager est arrivé ce soir à 5 heures de sa tournée en automobile. Et malgré la fatigue de ses 3 jours de voyage, il a magnifiquement dirigé Tristan et Isolde.
Riyad Kera, qui nous lisait un extrait du journal de régie de Paul Stuart. Ici, c'est 1913. Riyad, qui réalise l'émission Le cours de l'histoire aujourd'hui avec la technique, Paul Guige et Ludovic Auger. Alors, c'est intéressant, évidemment, je me tourne vers vous, Karine Boulanger, parce que 1913, c'est votre période. Tout ce personnel derrière, en coulisses, alors bien sûr, ils laissent des traces dans les archives parce que c'est leur métier, mais pas seulement. On a là le journal, c'est intéressant, on est au plus près, mais de la création aussi.
Oui, oui, exactement. Alors, il faut spécifier quand même que ce journal de régie, qui est tenu par Paul Stuart, le régisseur général de l'opéra à ce moment-là, est vraiment exceptionnel. Un journal de régie, normalement, c'est un peu plus aride que ça. Il y a juste la représentation du soir, les répétitions, les leçons aux artistes, quelques observations. Stuart s'approprie le journal de régie pour décrire la vie de l'opéra heure par heure, jour par jour. Et ça devient un journal intime. Et grâce à ça, j'ai pu retracer l'histoire de l'opéra dans les plus infimes détails. Il y a des choses qui ne s'expliquent qu'en lisant le journal de Stuart, où on comprend pourquoi on change de spectacle à la dernière minute, pourquoi on retarde des créations, comment est-ce qu'on doit composer avec les hommes politiques, avec les commanditaires, la mésentente des directeurs et lui-même qui doit louvoyer dans tout ça. Quand un directeur lui bat froid, il se tourne vers l'autre, et comment il doit faire fonctionner le théâtre, faire en sorte que les machinistes soient de bonne composition pour amener les spectacles qu'il veut, pour lui libérer la scène en temps voulu. Donc c'est vraiment un document qui est exceptionnel, ce journal de régie.
Oui, parce que ici on voit comment la décision doit être prise, et c'est parfois peut-être aussi au sentiment de se dire cette pièce ne va pas marcher, il faut la changer. Mais comment savoir, historienne, historien, s'il n'y a pas la trace et ces documents sont exceptionnels? Et puis, il y a aussi comment faire vivre cet opéra alors que les contextes sont très particuliers. On peut penser à la Première Guerre mondiale, on l'a évoqué avec Jacques Roucher, la Seconde Guerre mondiale aussi. C'est vrai que dans ces moments-là, le spectacle opéra, on n'imagine pas comment ça peut être une préoccupation pour le pouvoir. Mais ça l'est. Comment ça se passe pour Jacques Roucher?
Alors déjà, pour remettre un peu dans le contexte de cette époque, les directeurs ont une troupe aussi bien pour les ballets que pour le chant, ce qui leur permet au niveau de la programmation de s'adapter un petit peu et de ne pas, comme aujourd'hui, programmer pour toute une saison, mais de pouvoir programmer d'une semaine à l'autre et donc de s'adapter aussi au contexte politique un peu plus facilement. Donc par exemple, juste après l'Anschluss, Jacques Roucher, même sans parler de la guerre, va proposer Les Barbares de Saint-Saëns, qui a jamais été donné depuis une trentaine d'années en fait. Hein. Et donc voilà, il va pouvoir proposer quelquefois des petits clins d'œil entre guillemets à l'actualité. Et puis après, effectivement, il va falloir essayer de concilier, surtout que là, on est plus autonome. On a une tutelle d'État français, mais aussi d'État là d'occupants, avec du coup des impositions d'œuvres germaniques. C'est pour ça que pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un certain nombre d'œuvres imposées par l'occupant qui vont être créées par les occupants et qui vont impliquer quand même le personnel de l'opéra. Et puis il y a des œuvres qui vont être proposées par le directeur qui favorisent plutôt la danse, puisqu'il n'y a pas le problème de langue et donc il y a moins de problèmes de censure. Et il y a du coup possibilité pour les musiciens comme Francis Poulenc par exemple, qui va proposer Les Animaux Modèles, de pouvoir proposer une musique dans laquelle on fait des citations comme « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » par exemple, qui permet donc aux Français de tout de suite comprendre qu'il y a une deuxième lecture. Et d'autant plus que comme le thème est les fables de La Fontaine, voilà, la deuxième lecture se fait peut-être automatiquement dans le public.
Parce que ici c'est un dialogue sans cesse entre ce qui se passe sur scène, le public, et puis tout ce qui est derrière, les décisions. Claire Paolacci, Jacques Roucher, donc ce directeur de l'opéra de la Première Guerre mondiale à la Seconde. Les parfums, vous nous avez dit?
Oui, tout à fait.
Lesquels?
Elte et Pivert.
Pivert, alors non, Victor Pivert, c'est Rabbi Jacob, parce que c'est Stanislas Lefort dans La Grande Vadrouille.
Anglais est entré ici dans l'opéra. Verboten donner assistance, sous peine de la mort.
Harvard, Stanislas Lefort.
La capelle m'a stationné à Paris, nous avons abattu bombardiers britanniques. Deux aviateurs prisonniers. Un, ici, c'est cache. Je suis fâché que je dois arrêter la musique.
Vous avez entendu? Bon, alors écoutez, monsieur, c'est terminé. La répétition a été réduite à 12 minutes par la force des mitraillettes. Voilà! Ce soir, ça sera du joli. Tiens, ouais, un petit fragot, tiens. Allez,
je passe. La Grande Vadrouille, le film de Gérard Houry en 1966 avec Louis de Funès, bien sûr. Bah non, parce que c'est cette période-là, c'est Jacques Roucher qui est le directeur. C'est vrai qu'il faut absolument évoquer ça. Tout ce que porte l'opéra, c'est aussi énormément d'imaginaire. Nous avions le fantôme de l'opéra qui était là, ces décors somptueux. D'ailleurs, vous vous rendez à l'opéra, j'imagine, régulièrement. Est-ce que ça arrive d'aller à l'opéra sans avoir cet effet waouh, Mathias Auclair, d'y aller et d'être indifférent et blasé à ce décor absolument sensationnel?
Alors en tout cas, aller au Palais Garnier sans être impressionné par le bâtiment, je pense que c'est impossible. D'ailleurs, moi j'ai la chance d'y avoir un bureau et donc d'y aller régulièrement, même hors les horaires de spectacle et hors les horaires d'ouverture. Et à chaque fois, je suis complètement sidéré par ce bâtiment. évidemment par la splendeur de ces espaces publics, les effets baroques ménagés par Garnier, avec notamment ces effets de rétrécissement et ensuite d'ouverture ou de monochromie suivie d'effets polychromes, marche absolument à tous les coups, et même quand vous vous y attendez, vous êtes pris. Mais il y a aussi une certaine forme de magie à parcourir des couloirs de temps en temps vides, de temps en temps habités par tous les personnels qui composent le personnel de l'opéra. Tous d'ailleurs extrêmement sympathiques, chaleureux et très promptes à parler de ce qu'ils font. Et donc l'opéra et le Palais Garnier, singulièrement, est vraiment un lieu tout à fait unique, à la fois humainement et professionnellement. Et ensuite, aller au spectacle, la question, c'est un peu dans quelle disposition d'esprit on va au spectacle. Malheureusement, parfois, on est un peu fatigué, mais il y a aussi des moments où on est totalement réceptif. Et ce qui est beau avec le spectacle d'opéra, d'abord, c'est toujours une expérience, parce que c'est long. Donc vous avez le temps de passer par différentes phases. Et c'est aussi quelque chose qui s'adresse non seulement évidemment à votre oreille et à votre culture, mais qui d'une certaine façon va vers l'intime. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir aussi des réactions très fortes, à la fois d'adhésion totale, ça peut aller jusqu'à presque pleurer d'émotion, ou au contraire de rejet violent si jamais le spectacle va contre vous. Et là, dans ce cas, vous pouvez être très en colère.
Karine Boulanger, j'imagine que c'est la même chose. C'est joliment dit, hein, le waouh devant le bâtiment et l'émotion devant le spectacle.
Oui, c'est la magie de l'opéra, parce que quand on y va en tant que lectrice de la Pédiathèque Musée de l'Opéra, par exemple, on est toujours saisi du privilège qu'on a d'aller dans des espaces qui ne sont pas ouverts au reste du public, de voir des recoins, pour peu qu'on nous fasse passer par l'administration et les coulisses parce que le bâtiment est fermé pour telle ou telle raison, l'émerveillement est encore plus grand, on croise les danseurs qui vont aller travailler. Donc il y a ce petit côté spectatrice qui en profite pour voir les coulisses de l'opéra. Et en tant que spectatrice, le bâtiment est assez... Je suis désolée, c'est le mot anglais qui me vient à l'esprit.
Allez-y,
overwhelming.
Ah non, bah là, faut m'aider.
Submergé. ça vous submerge tellement il y a de décors. C'est assez lourd comme décor, mais en même temps, c'est le charme de Garnier. Et la magie de l'opéra, c'est qu'on oublie tout, en fait. On croit à tout et n'importe quoi. Peu importe ce qu'on nous montre sur scène, à un moment, on est pris par le spectacle et on croit absolument à toutes les histoires qu'on nous présente, plus improbables les unes que les autres.
Enfin, le signe noir, on aurait dû s'en douter, hein, c'était pas le bon. Enfin bon, Claire Paolici, non mais c'est vrai, hein, faut rappeler, c'est un bâtiment qui se visite, l'opéra, bon, on peut le dire. Donc il y a le spectacle et il y a le bâtiment.
Tout à fait, et je pense qu'il y a énormément de touristes qui viennent. Donc effectivement, quand on vient pour travailler dans la bibliothèque de recherche et qu'on n'a pas le privilège d'avoir un bureau comme Mathias Auclair au Palais Garnier...
Mais la bibliothèque est très belle, hein.
Et justement, voilà. Nous profitons de la bibliothèque avec quand même des sièges et des tables qui sont très larges, donc comme un bureau de directeur presque, contrairement à d'autres bibliothèques de la Bibliothèque nationale. Et du coup, effectivement, on a ce privilège de pouvoir voir les recoins et puis surtout toucher aussi des décors, des costumes, des archives de personnes qui ont été vraiment acteurs et qui ont pu chanter sur la scène de l'opéra.
Merci vivement à vous trois d'être venus dans le cours de l'histoire. Claire Paolici, Jacques Rouchet, l'opéra de Paris de la Grande Guerre à la Libération. Merci aussi à vous, Karine Boulanger, hein, et à votre thèse. Alors là, on attend la publication sur cette direction messager broussant juste avant la Première Guerre mondiale. Et Mathias Auclair, l'opéra Garnier, dessin pour un chef-d'œuvre. Et puis l'opéra de Paris, 350 ans d'histoire, comme ça on couvre l'ensemble. Merci vivement à tous les trois.
Non, André ne dirigera aucun orchestre tant qu'il y aura un Allemand sur le sol français, c'est clair, non? Mais oui, Jean, vous êtes un bon impresario, la question n'est pas là.
C'est une question de patriotisme.
Voilà, le patriotisme, c'était Papy fait de la résistance. Parce qu'il faut rappeler, c'est aussi à l'opéra que ça commence. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Maïwenn Guizhou, Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Laloum et Chloé Rouillon. Le cours de l'histoire, retrouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.